Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il fut question de cinéma ce week-end lors des cérémonies des Césars et des Oscars, mais il ne fut pas question que de cela. Cette année, davantage encore que lors des éditions précédentes, la remise des récompenses a pris une dimension politique. À Paris comme à Los Angeles, les professionnels ont d'abord affiché leur soutien aux femmes victimes de violences. C'était attendu et c'était logique. L'affaire Weinstein est passée par là. Du côté du palmarès, ce sont des films engagés qui ont été primés de chaque côté de l'Atlantique. Aux Oscars, Ode à la tolérance pour La forme de l'eau, réalisé par l'ancien immigré mexicain, c'est lui qui se présente ainsi, Guillermo del Toro. Hommage au combat des militants d'ACT UP au César avec 120 battements par minute de Robin Campillo, et le réalisateur en a profité pour évoquer le sort des migrants. Alors est-ce cela que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a tenu à saluer après la cérémonie parisienne en écrivant dans un communiqué que le cinéma doit être un vecteur d'engagement et d'exemplarité? Le cinéma est-il utile aux grandes causes? C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Costa Gavras, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur et scénariste notamment. Le Capital, Le Couperet, ce sont quelques-uns de vos films également. Missing, L'aveu, Z. Bon, si on veut avoir la liste complète, on va par exemple sur Wikipédia où on peut la trouver. Vous êtes par ailleurs le président de la Cinémathèque française. Pour discuter avec vous, Marie Masse-Monteil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes productrice de cinéma. Votre société, c'est Elsevier Film. Le petit dernier de votre société, c'est La fête est finie, qui est sortie il y a quelques jours. On vous doit notamment Grand Froid, Tous au Larzac, La source des femmes, et vous êtes la présidente d'honneur du syndicat des producteurs indépendants, après en avoir été la présidente tout court. Et puis notre troisième invité, Philippe Lioré, bonsoir.
Bonsoir.
Réalisateur, scénariste, là aussi je vais citer quelques-uns des films que vous avez réalisés, Le Fils de Jean, Toutes nos envies, ou encore Welcome. Alors, je voudrais vous lire un court extrait du compte-rendu qu'a fait le journal Le Parisien. C'était samedi matin pour raconter ce qu'avait été la cérémonie des Césars. Et j'ai notamment lu cette phrase. « Jamais la grand-messe du cinéma français n'aura été aussi militante que cette 43e cérémonie. » Vous qui y avez soit assisté, soit qui l'avez regardé sans doute à la télévision, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que la cérémonie des Césars n'avait jamais été aussi militante, Costa Gavras?
Militant, je ne sais pas. J'aime pas beaucoup le mot. Cinéma n'est pas être militant. Le cinéma doit être dissident plutôt que militant, à mon avis. Enfin bon, je pense qu'il a été un très bon palmarès, absolument. Et d'abord par le film qu'il a été, qu'il a eu le prix du meilleur film, qui à mon avis est un grand film. Un grand film sur le plan de la réalisation, sur le plan du contenu et sur le plan du fait que ça peut faire dans notre société. Je pense à un film sur les homosexuels, qui sont très souvent les parias de notre société, insultés, marginalisés, etc. Et tout d'un coup, on découvre là un monde tout à fait différent de ce qu'on pense, de ce qu'on nous a appris depuis qu'on est très jeune, que ce soit la religion, que ce soit l'école, que ce soit les parents, que ce soit tout le monde. L'homosexuel, c'est l'ennemi. Là, on découvre des hommes avec des problèmes, des hommes qui s'aiment, des hommes qui ne s'aiment pas, et il leur arrive des malheurs. Et tout d'un coup, on se familiarise d'une certaine manière avec une partie de notre communauté qui est quand même absolument étonnante et nécessaire.
Alors là, vous évoquez Costa Gavras, le palmarès, et c'est normal, hein, c'est quand même l'essentiel. Et heureusement, ce sont les films qui sont primés, qui sont les plus importants, mais j'imagine que dans l'esprit du journaliste du Parisien, il y avait aussi l'idée qu'il y a eu un certain nombre de prises de parole qui étaient peut-être justement des prises de parole militantes. Comment est-ce que vous avez vu la soirée, vous, Marie Masse-Monteil?
Bah, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient eu des discours assez militants, effectivement, parce que moi je crois que j'aime bien le mot militant, parce que les gens d'ACT UP étaient des militants. Moi, il se trouve qu'à l'époque, j'étais assez camarade des gens d'ACT UP, et à l'époque, ils étaient vraiment dans la clandestinité. Enfin, c'était pas une cause qui était très reconnue. Donc il y a eu évidemment Robin Campillo, il y a eu aussi Pierre Lemaitre. Mais finalement, la plus belle parole...
Pierre Lemaitre qui était là pour le César de la meilleure adaptation et qui a expliqué quoi les deux personnages du film Au revoir là-haut étaient des personnages qui pouvaient aussi renvoyer à aujourd'hui, parce que c'était des personnages qui étaient un petit peu laissés pour compte et que ça renvoyait par exemple aux migrants, notamment.
Et je pense que c'est une prise de parole qui a été droit au cœur de Philippe Lioré.
Philippe Lioré, oui, parce que Welcome, par exemple, un de vos films, Philippe Lioré, était consacré à l'histoire d'un jeune migrant qui cherche à apprendre à nager pour passer de la France à l'Angleterre.
Oui, oui, bien sûr, on a été plusieurs à faire des films sur ce sujet, puisque exactement à la même époque, Costa, tu sortais un film qui parlait exactement de la même chose, comme quoi. Et mon premier film, en 92, s'appelait Tomber du ciel, et sous une autre forme, sous la forme d'un conte, racontait déjà le problème des migrations. Et on m'avait dit à l'époque, oh, t'es en plein dans l'actualité, en 92.
Alors il y a ce que racontent les films, bien sûr, et on va y revenir, mais il y a aussi ce que disent ceux qui font les films. On a évoqué Robin Campillo, donc le réalisateur de 120 battements par minute. Écoutez justement une de ses interventions, il a eu l'occasion de monter sur scène plusieurs fois. Cette fois-là, c'était justement pour parler de la question des migrants.
Je voulais parler évidemment des migrants. Parce que ça fait 15 ans que le problème perdure et ça fait depuis un an que les choses sont de plus en plus brutales vis-à-vis d'eux. Je dois vous dire que la loi qui va être votée bientôt va être une loi encore pire que ce qui se passe actuellement, puisqu'on va pouvoir enfermer plus facilement, plus longuement et expulser plus facilement les migrants. Donc c'est une très très mauvaise nouvelle. Alors je tiens à dire, il existe en fait des associations, comme l'a dit Arnaud, ACT-UP existe toujours, des associations de malades, il y a aussi AIDE, il y a des associations de trans, des associations d'usagers de drogue, des associations de travailleurs du sexe. Ben, je crois que vraiment il est temps de les entendre, vraiment. Parce que comme il y a 25 ans, silence égale mort. Merci.
Alors j'aimerais vous entendre tous les trois peut-être sur cette façon justement de prendre la parole et de profiter de cette tribune que sont les Césars pour interpeller le public, interpeller les pouvoirs publics. Est-ce que vous considérez les uns et les autres que ça fait peut-être partie d'une forme de responsabilité quand on est en l'occurrence cinéaste, mais quand on est un personnage public, que de profiter de ce genre de tribune pour aller sur ce type de terrain, Philippe Thuret?
J'entends surtout qu'on a mis la musique pour lui dire qu'il était trop long. Ce qui est quand même un peu curieux, vu ce qu'il était en train de dire.
Bon, c'était la règle qui s'appliquait à tous, hein, que ce soit intéressant ou pas,
les propos. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui appuyait sur un bouton, il aurait pu s'abstenir.
En tout cas, il a bien fait de profiter justement de ce moment-là.
Bien sûr, bien sûr.
Costa Gavras.
Tous les moments sont bons pour parler de ça.
Oui, bien sûr. C'est normal qu'à partir du moment où on se trouve devant un micro, devant une caméra, et qu'on sait qu'on est entendu et vu par beaucoup, beaucoup de monde, c'est bien de dire ce qu'on pense. Et l'occasion... En plus, si on a un prix, on a aussi une certaine légitimité, je dirais, pour le dire, oui. Puis c'est normal.
Marie Masmontaille.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cité la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qu'on aime tous, qui parle d'engagement et d'exemplarité.
Alors, je redis sa phrase. Alors, c'est un communiqué qui est un petit peu long, où elle se réjouit de la façon dont s'est passée la cérémonie des Césars, notamment que le fait que la question des violences faites aux femmes ait été abordée, également la question des inégalités dans le domaine du cinéma. Et elle a cette phrase, effectivement, dans son communiqué. Le cinéma doit être un vecteur d'engagement et d'exemplarité. Alors, je sais pas sur lequel des deux termes vous voulez d'abord vous intéresser. Engagement, peut-être?
Engagement, oui, enfin je pense qu'on est tous engagés quand on fait nos films, que ce soit les réalisateurs, les scénaristes, les comédiens aussi d'ailleurs, et les producteurs. On a foi dans ce qu'on fait, et ce qu'on veut c'est toucher le plus grand nombre. Mais moi c'est la question d'exemplarité, parce que c'est en réfléchissant à ce qu'a dit Robin Campillo, je ne sais pas ce que ça veut dire l'exemplarité. Bien sûr on ne va pas faire des films qui incitent au viol, au meurtre, voilà.
Il y en a eu, hein.
Mais l'exemplarité c'est relatif. Donc, est-ce que la ministre de la Culture, tout en disant ça, était contente que Robin Campillo conteste une loi qui va être votée par le gouvernement, enfin par le Parlement et initiée par le gouvernement dont elle fait partie? Donc, je pense que l'exemplarité, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que les réalisateurs, ils doivent avant tout être libres, préférer, comme dans le cadre des paysans du Larzac, par exemple, de préférer la légitimité à la légalité. Et surtout, ils doivent jamais se censurer ou s'empêcher de critiquer telle ou telle chose. Moi, j'ai fait souvent des films avec des Israéliens. Et les Israéliens, souvent de gauche, ne se privent pas de contester la politique israélienne des territoires occupés, et je pense pas que la ministre de la Culture actuelle les considère comme devant faire un film.
Donc vous voyez dans cette notion d'exemplarité peut-être une tentation de vouloir assigner au cinéma certaines missions et de lui en interdire d'autres?
Non, je pense pas que ça soit ce qu'elle pense, mais en même temps, je sais pas ce que ça veut dire pour un réalisateur, il y en a deux ici, d'être exemplaire.
Et ben ils vont nous le dire tout de suite, Philippe Lioret. Ça serait quoi être exemplaire quand on fait du cinéma?
Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que, par exemple, On est toujours confronté, chacun, à notre propre morale. Alors, il faut être exemplaire par rapport à sa propre morale. Mais l'exemplarité par rapport à quoi ? Par rapport à un État, par rapport à... là, ça s'appelle de la censure, hors de question, non ?
Costa Gavras ?
Je pense que... Je ne vais pas interpréter ce que dit la ministre, mais je pense que le mot responsabilité, bah, ça appartient à chacun. La responsabilité, on ne peut pas nous dicter la responsabilité, on est responsable ou on ne l'est pas. Enfin, c'est le problème de la liberté. Quant à l'exemplarité, moi, je crois beaucoup à ce mot, parce qu'être exemplaire par rapport à d'autres cinémas, pas par rapport à d'autres cinéastes, pour ne pas faire, je suppose, la même chose, pour faire des choses de qualité, pour faire des choses importantes et qui sont aussi comprises par les publics et éventuellement qui peuvent jouer un certain rôle dans la société. Ça, c'est l'exemplarité. Il est vrai aussi qu'on peut dire que le cinéma français est exemplaire sur le plan de sa constitution, sur le fait que, par exemple, qu'en France, nous avons, sur le plan des femmes, nous avons plus de femmes que n'importe quel autre pays au monde qui font des films. Nous avons des lois qui permettent à tout le monde, à beaucoup de monde, de faire des films. Et que nous sommes libres de faire les films que nous voulons. Et qu'il y a même des producteurs qui acceptent de faire des films sur lesquels ils ne sont pas du tout sûrs qu'ils peuvent gagner de l'argent. Ils peuvent même perdre de l'argent. Donc c'est tout ça, je pense que ça fait l'exemplarité du cinéma français.
Alors par rapport à la place des femmes, je ne suis pas sûr que tous les professionnels du cinéma partagent votre point de vue, Costa Gavras, puisqu'il y a eu, il y a quelques jours de cela, une tribune de professionnels du cinéma, justement, dans le journal Le Monde, qui demandait à ce qu'il puisse y avoir un système de quotas, notamment dans le financement des projets. Alors ben justement, vous allez me dire, je vous dis juste, je vous dis juste ce qu'ils disent, voilà, des quotas dans le financement des projets, afin de parvenir à la parité, et ils mettent en avant d'autres pays, comme par exemple la Suède, ouais, qui sont allés vers ce système-là pour qu'il y ait une cohérence entre, disons, la composition du sociologique de la FEMIS aujourd'hui, c'est-à-dire cette école de cinéma où il y a une petite majorité de femmes, et quand on se retrouve au niveau de la production et de la réalisation, il y a quand même aujourd'hui encore une minorité de femmes. J'ai l'impression que ça provoque...
C'est pas tout à fait vrai, et puis en plus de ça, s'il y a une majorité d'étudiantes en cinéma à la FEMIS qui sortent diplômées... ou pas d'ailleurs diplômés, mais qui sortent de la FEMIS, ça veut dire que dans 4 ans, il y aura une majorité de femmes cinéastes. Hein. Et il n'y a pas besoin de quotas pour ça, il n'y a pas de quotas de talent. Hein. Le talent, c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, homme ou femme, peu importe.
C'est pas plus compliqué quand on est producteur de produire un film, quand on est une femme dans le cinéma français, que quand on est un homme. Marie Massemontagne, j'ai l'impression que je dis des énormités, pour autant, c'est quand même un point de vue qui me semble assez partagé, que ce point de vue-là. En tout cas, qu'il y a une vraie résonance médiatique.
Non, à mon avis, franchement, c'est pas plus dur. Moi, j'ai jamais eu de problème pour produire... les films que j'avais envie de produire, outre des problèmes financiers, de ne pas arriver à les monter, ou qu'ils n'aient pas assez d'argent. À titre personnel, je suis totalement contre les quotas dans les décisions, par exemple de l'avance sur recette, ou de dire que tel festival devrait obligatoirement sélectionner la moitié de femmes. Je trouve ça assez stupide. En revanche, je pense que ce qui serait assez intelligent, et c'est ce qu'ils font au Centre National du Cinéma, c'est dans les commissions, il y a une parité d'hommes et de femmes. Il y a autant d'hommes que de femmes dans la commission de l'avance sur recette. Donc ils y veillent très précisément. Et ça serait bien que dans les conseils d'administration des institutions en général, il y ait autant d'hommes que de femmes. Ça serait des bonnes choses. Après, de dire que la moitié des avances sur recette doivent être données à des femmes, c'est presque humiliant, je trouve.
Alors, est-ce que c'est une solution, celle qu'évoque Marie Massemontagne, qui vous semblerait peut-être davantage correspondre à ce qu'il faut faire, Costa Gavras ?
Non, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ce que je peux affirmer, c'est que nous avons en France à peu près entre 20 et peut-être un peu plus de 20% des films qui ont fait par des femmes, qui est unique au monde. On cite la Suède.
Plus que ça.
Ce n'est pas vrai que la Suède a autant de femmes, autant de films. Il y a quelques lois qui sont meilleures que les nôtres en France. Alors on dit aussi que nous sommes un peu en arrière de toute l'Europe. C'est complètement faux. Prenez l'Italie, prenez l'Espagne, prenez le pouvoir. Il y a très peu de femmes. Prenez l'Amérique. Il y a 3 femmes qui font des films en Amérique. Vous comprenez ? Et les esprits sont ouverts complètement. Et l'école, comme vous le disiez, il est ouvert aux femmes. Et c'est vrai qu'il y a des femmes scénaristes, qu'il y a des femmes chefs opérateurs, qu'il y a des femmes machinaux, qu'il y a des femmes dans tous les branches de la société.
Tous les films que je fais, l'équipe est majoritairement féminine. Et c'est moi qui choisis de prendre des femmes, parce que je sais qu'elles, souvent, elles travaillent mieux, elles sont plus engagées que les hommes. Mais je pense que
Pourquoi est-ce qu'une femme travaillerait mieux qu'un homme?
Je sais pas, parce que je parle pas de généralité, mais je parle de ces femmes-là en particulier, qui sont des gens que je connais très bien et qui se trouvent être des femmes. Voilà, par la fin, rien n'a été décidé.
Il y a une femme qui est en train d'appeler Costa Gavras.
C'est un homme, ma femme, Costa. Mais je pense Costa qu'il y a plus que 20% de films réalisés par.
Oui, je crois qu'il y a 25% à peu
voilà.
près.
Ouais, un peu plus.
En revanche, la seule différence, c'est que les films de plus de 7 millions d'euros sont très rarement réalisés par des femmes.
C'est vrai. Peut-être. Quand on touche aux quotas, ça c'est un domaine très dangereux à mon avis. Parce que les quotas ne veulent pas dire automatiquement la qualité.
Bien sûr.
Encore une fois, dans les centres de décision, je ne sais pas, la Cinémathèque, il y a beaucoup de femmes au conseil d'administration. Moi, j'y étais à une époque.
Bien sûr. Et surtout, on a beaucoup de femmes dans le personnel et beaucoup de directrices aussi.
Oui, mais je parle des centres de pouvoir. En l'occurrence, effectivement, la FEMIS est dirigée par deux femmes. Je crois qu'ils font... Je ne sais pas si les jurys font attention au fait de faire rentrer autant de femmes que d'hommes. Ce n'est pas ça l'idée.
D'abord, ils lisent les scénarios. Sur le scénario, il n'y a pas écrit le sexe de la personne qui l'a écrit.
À la FEMIS?
Non, je parle après dans les institutions françaises, à l'avance, sur recette, tout ça, voilà. Moi, comme producteur, par exemple, on a 4 films en développement, il y en a 2, on va même dire 3 qui vont être réalisés par des femmes, mais c'est pas un choix.
J'ose à peine vous soumettre du coup une proposition qui a été faite la nuit dernière et qui là aussi, alors en termes d'exemplarité, je ne sais pas si on peut parler de grande cause, mais si, l'égalité homme-femme, on peut dire que c'est une grande cause. La représentation de la diversité, c'en est aussi une aujourd'hui. On va aller après sur d'autres thèmes, bien sûr, dans le cadre de cette discussion. Mais il y a l'actrice Frances McDormand qui a été primée, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour Three Billboards. L'histoire de panneaux publicitaires qu'elle utilise pour interpeller le shérif de la ville parce que elle n'a pas de nouvelles du meurtrier de sa fille. Elle a évoqué une clause qui existe, semble-t-il, dans le cinéma américain. Vous allez me dire, mais je crois que je devine à peu près votre réponse, qui est la clause d'inclusion qui permet, semble-t-il, dans le contrat des acteurs d'exiger que le casting et l'équipe d'un film prennent en compte la diversité. Ça ne veut pas uniquement dire, d'ailleurs, la diversité homme-femme. C'est aussi la diversité, j'imagine, qui est peut-être des Noirs, des Latinos dans le cinéma. Est-ce que ça, ce sont des considérations qui vous semblent totalement très très éloignées, on va dire, de ce qu'est aujourd'hui le cinéma français.
Ça veut dire qu'il faut écrire Philippe le scénario Théorée. En fonction de ça, vous vous rendez compte?
Alors moi, je ne suis pas initiateur, bien sûr, de cette clause-là.
C'est une plaisanterie, c'est pas possible.
C'est une plaisanterie, pourtant ça existe manifestement.
Il y a certains films de studio américains, je parle pas des films indépendants où à mon avis on s'en sert pas trop de cette clause, mais il y a certains films de studio où effectivement on peut voir qu'ils répondent à des normes bien ciblées et que les films on voit bien qu'ils représentent ce à quoi ça aboutit, quoi.
Mais non, ça peut vouloir dire aussi qu'un film, et aussi dans les acteurs par qui sont choisis, peut être ou doit être représentatif de la société dans laquelle
c'est pas de la pub, c'est pas pour du cinéma ce dont vous parlez.
Il faut
Costa Gavras.
Si on considère que le cinéma est un art, il faut laisser à cet art la liberté. Moi, j'ai fait des films en Amérique, j'ai jamais entendu parler de cette loi. Par contre, c'est vrai que les syndicats viennent vous dire il faut prendre autant de chauffeurs, autant de figurants, de telle scène, etc. Et ça, ils vous l'imposent. Et on les voit à la fin du générique. Mais en ce qui concerne les femmes, je n'ai jamais entendu parler de ça en Amérique. D'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez le nombre de femmes qui font des films en Amérique, ou qui sont des scénaristes, sont très très peu nombreuses. Très peu.
Ça, c'est vrai.
Le cinéma a toujours été une industrie, un art des hommes. Voilà. Jusqu'à, pas dans 100 ans presque, un peu moins. Et c'est vrai que les femmes ont été exclues. C'est vrai que depuis plusieurs... En France, il y a eu, dès le début du cinéma, il y a eu des femmes. Très peu, mais enfin, il y en a eu. Mais, alors, il faut maintenant que ouvrir les portes pour que les femmes entrent plus massivement qu'elles ne l'étaient avant. Mais il faut du temps. Ça a commencé il y a combien ? Une vingtaine d'années, je pense, qu'on a de plus en plus de femmes. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça n'est pas aussi facile que ça. Voilà. Mais je pense que la volonté et les conditions en France sont réunies pour qu'on puisse arriver un jour à la parité. Mais on ne peut pas arriver du jour au lendemain, on ne peut pas arriver non plus avec des quotas.
Il n'y avait pas de chef opérateur femme il y a 30 ans dans le cinéma. Maintenant, il y en a énormément. Il y en a, je veux dire, je ne sais pas, peut-être 30-40%, facile.
Du point de vue de la diversité, sociale, s'il y a une notion, alors qui est aussi très importante, justement, aux États-Unis, c'est la discrimination positive. Et actuellement, il y a un film qui a un énorme succès, c'est Black Panthers. Donc, c'est un super héros qui est noir. Le film fait partie des films déjà les plus vus aux États-Unis, alors qu'il vient seulement de sortir il y a quelques jours de cela. Et ça provoque manifestement aussi quelque chose de très, très important dans la communauté afro-américaine. Et y compris ici en France, il y a eu un papier dans Le Point, vous avez peut-être eu l'occasion de le lire, de l'intellectuel camerounais Achille Mbembe, qui dit notamment « Ce film est une extraordinaire synthèse de toutes les idées, des concepts qui auront accompagné les luttes nègres en vue de la montée en humanité. » Est-ce que ça sert aussi à ça, justement, un film de cinéma? Alors là, on sort des quotas, mais peut-être de porter à l'écran un certain nombre de combats et de le faire sous une forme qui n'est pas la forme du film politique traditionnel, et qui est un film de divertissement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît un petit peu nouveau, Marie-Mas Ponteil?
Ce qui est nouveau, c'est que non seulement tous les acteurs du film sont noirs, enfin moi je ne l'ai pas vu encore, mais manifestement, de ce que j'ai compris, ils dirigent un pays africain qui a totalement réussi, enfin qui est un pays exemplaire, justement. Et du coup, je pense que c'est surtout ça qui a rendu la fierté aux Afro-Américains, et peut-être aussi qui donne envie à toute la population, qu'elle soit noire, blanche, maghrébine, d'aller voir ce film, parce que effectivement, ça a l'air de porter un message qui est à contrario de ce que le président Trump vient de dire sur l'Afrique.
Est-ce que ça peut servir à ça, notamment justement le cinéma, Costa Gavras et Philippe Lloret, c'est-à-dire déjà de modifier le regard qu'on peut avoir sur un sujet, sur une catégorie de la population, là en l'occurrence les Afro-Américains?
On peut changer, que le cinéma a changé le monde dès le début. Nos comportements, ils sont tellement liés au cinéma, notre façon d'être, notre façon de vivre, de s'habiller, etc. Alors moi, je vais citer un exemple très récent à propos de ce que vous dites. C'est après l'élection du président Obama, il y a eu un grand article dans le New York Times où il disait « Il a été élu grâce au cinéma ». Pourquoi? Parce qu'il est noir. Parce qu'au cinéma, depuis plusieurs années maintenant, on a montré les noirs, pas seulement comme des gens qui étaient des chauffeurs ou qui faisaient des travaux secondaires, mais comme des docteurs, comme des Superman même. Donc, l'image du noir avait changé. Et le New York Times disait que, grâce à cela, les gens ont pensé que les noirs peuvent être autre chose que des ouvriers ou que des femmes de ménage. Voilà. Donc, le cinéma a changé. On peut vous donner plein d'exemples. Le cinéma. Il y a des exemples négatifs aussi. Prenez par exemple Leni Riefenstahl. Quand il a fait ses grands films pro-nazis, il y a des partis dans le monde qui ont été créés, des partis nazis en Amérique et ailleurs, des partis nazis après avoir vu ses films. Donc le cinéma, c'est pour ça que la responsabilité dont parlait la ministre est importante. Mais une fois de plus, on ne peut pas faire une loi sur la responsabilité. Il faut que chaque cinéaste soit responsable, parce que c'est une arme que nous avons entre nous. Notre bien caméra, sûr, ça oui, peut oui, être une arme.
Une arme à double tranchant. Même.
Ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être décidé en amont, de se dire je vais prendre tel personnage et le faire incarner par tel type de comédien parce que ça enverra tel message. Mais est-ce que malgré tout, une fois que le casting est fait, une fois que le film est produit, vous pensez à la responsabilité que va avoir l'œuvre qui va être vue par des... et à l'impact que va avoir votre film, Philippe Lloret? C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand vous faites Welcome, par exemple, ouais, est-ce que toujours, vous vous dites, j'ai envie, mon but, c'est qu'on ait un autre regard, peut-être, sur ce que sont les migrants, en montrant un personnage particulier, montrant que c'est aussi...
Oui, mon but, c'est d'abord de raconter cette histoire-là et pas une autre. Après, tous les calculs qui viennent derrière, mais je voulais juste, en parenthèse, ajouter un truc à ce que Costa vient de dire, c'est que... il a entièrement raison, et il y a le contre-coup de ça, il y a l'arme à double tranchant qui est, on voit souvent dans les comédies des sujets qui sont purement communautaires, comme ça, qui veulent stigmatiser ou rire d'une communauté et tout. Ils ont l'air inoffensifs, ces films. Ils sont super dangereux. Je trouve que ils amènent un regard condescendant sur... et pourtant, moi, le communautarisme, ça m'ennuie profondément, mais je trouve que souvent, on met le doigt sur une communauté en voulant en rire, toujours. Mais on va chercher chez le spectateur ce qu'il y a de plus vil en lui en faisant ça, bizarrement. Alors, il rigole, oui. Mais je crois qu'il y a des dommages collatéraux causés par ces films-là. important. Et pour en revenir à Welcome, j'étais pas du tout parti en faisant Welcome pour faire un énorme pamphlet sur la politique de Nicolas Sarkozy et de son ministre. Comment ça s'appelait de...
Ministère de l'intégration, l'identité nationale.
Fallait ouais. oser
il y avait
ça.
Aussi intégration et immigration.
Quand je me suis baladé partout dans le monde avec ça, et quand je disais aux gens qu'en France, on avait un ministère à l'époque de l'identité nationale, dans ce pays, le pays des droits de l'homme, ils n'en revenaient pas. Et le film nous a vraiment dépassés, puisque il a été question de revisiter cette loi, L226, je crois, cet article qui était l'aide à personne en situation irrégulière, qui était condamné de 5 ans de prison. Et on nous a emmené là. Le film a été projeté à l'Assemblée nationale. Ça. Il est sorti des pages cinéma, des pages culture, pour rentrer dans les pages société. Alors, on est tous très contents quand ça arrive à un film parce que ça lui donne une exposition, mais je vous assure qu'il y a un moment où ça m'a fait peur. Parce qu'on m'a plus jamais parlé de cinéma, mais on n'a plus parlé que de ça. C'était très bien. Et finalement, quoi? Cet article de loi a jamais été abrogé. Il a été, on va dire, quelques années après, quand la gauche est venue au pouvoir, où là, c'est moi qui suis allé les rechercher. Parce que je leur ai dit, eh oh, vous êtes venu me chercher contre la droite à l'époque pour qu'on abroge cet article. Et là, maintenant, vous êtes au pouvoir et alors on y retourne. Alors on y retournait, oui, en traînant un tout petit peu les pieds. Et puis finalement, on a fait un petit arrangement cosmétique à cette loi, mais on n'a rien changé. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Calais, c'est bien pire que ce qui se passait quand j'ai tourné Welcome. Voilà. Donc ça sert à rien, le cinéma.
Conclusion pas terrible, enfin, en tout cas très, très pessimiste. Marie-Basse-Montaille, est-ce que ça vous est arrivé, vous, que des films que vous produisiez aient un impact inattendu, en tout cas différent peut-être que, comment dire, qu'un impact purement cinématographique, disons, et que ça provoque autre chose?
Je sais pas, mais en tous les cas, il est clair que le deuxième film que j'ai produit, qui s'appelait Pourquoi pas moi, qui est sorti en 99, avec Stéphane Justy, le réalisateur, et Caroline Adrian, la coproductrice, on avait vraiment envie de faire un bon film, évidemment, mais un film militant, pour montrer que ça existait d'être une jolie lesbienne et de pas avoir envie de se suicider parce qu'on vivait quelque chose d'atroce. Et je pense que ça a beaucoup frappé des jeunes filles. Céline Sciamma m'en a parlé à l'époque. C'est vrai que... Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu des refus de comédiennes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de dire que Julie Gayet a accepté de tourner ce film, en jouant d'ailleurs la fille de Johnny Hallyday, qui a complètement supporté notre cause. Il y avait Amira Khazar, il y avait Alexandra London, qui sont devenues des égéries gays, tout en étant totalement hétérosexuel, et de même Bruno Puzulu. Et aujourd'hui, c'est vrai ce que vient de dire tout à l'heure Costa, c'est vrai qu'à l'époque, les homosexuels étaient plutôt pas des gens qu'on trouvait formidables et tout. Et avant même, pourquoi pas moi, il y a eu un autre film qui était Gazon Maudit, qui a été un énorme succès, produit
de
par...
Josiane Balasco.
Voilà, réalisé par Chabat.
Avec Josiane Balasco.
Avec Josiane Balasco, qui a...
Gazon Maudit, c'était pas Chabat, si.
C'est pas. Pour moi, c'était Claude Berry. C'était Claude Berry. C'était Claude Berry. Pardon, Claude Berry avec Gazon Josiane Maudit, Balasco et Alain Chabat.
C'est ça.
Et tout d'un coup, qu'une star absolue comme Josiane Balasco joue une lesbienne. Donc nous, on a suivi ce mouvement. Et effectivement, aujourd'hui, alors c'est peut-être presque l'inverse. Dès qu'il n'y a pas un homosexuel dans un film, ça va pas, quoi. Il y en a partout. Mais en même temps, je pense que ça fait largement évoluer les choses, effectivement, largement.
Et pas seulement au cinéma.
Non, dans la vie, absolument, tu vois, oui. Cette reconnaissance de l'homosexualité, elle vient beaucoup de là,
Marie,
je pense, du cinéma.
J'ai l'impression que justement, un film comme Gazon Maudit, c'est intéressant comme échange, parce que toi, t'as l'impression que Gazon Maudit a ouvert les yeux aux spectateurs sur une certaine normalité de l'homosexualité féminine, et moi, je pense que ça l'a un peu stigmatisé.
Moi, je pense pas, sincèrement. Je pense qu'il y avait encore des clichés, mais
Je pense que le film, il en véhicule vachement des clichés sur l'homme et tout ça. Et je suis pas. Et moi, ça m'a un poil dérangé. Je trouve que c'était pas.
Évidemment. C'est bien de déranger, hein.
Ouais, mais ce
qui
m'a.
Parce qu'on réfléchit par la suite.
Non, mais ce qui m'a un peu dérangé, ce qui m'a un peu dérangé,
c'est
justement.
Super jolie fille, donc.
Ce qui m'a un peu dérangé, c'est justement ça. C'est ce côté rire aux dépens de. Il y a eu un film juste en même temps qui s'appelait un film sur l'homosexualité qui s'appelait Ah, j'ai un trou, je vais le retrouver.
Enfin, moi, ah bah, c'est les joies du direct, c'est quand on ne se pas, on a un petit peu du mal.
J'ai un débat avec Philippe Lioret, parce que en fait, le problème était réglé par la position de Victoria Abril, qui partait avec Josiane Balasko. Et pour moi, donc, du coup, il n'y avait plus de problème.
Oui, oui.
Mais... De clichés.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui,
Costa Gavras. Costa Gavras. Pour revenir alors, sur certains de vos films les plus connus, je pense à Z, je pense à L'Aveu. Est-ce que ce sont des films, oui, j'imagine, qui ont eu un impact et qui ont eu un impact notamment dans le débat public. L'Aveu, par exemple, quand vous le réalisez, on est quoi, au début des années 70, c'est oui, ça 71
oui, 70, oui.
Ça dénonce ce que sont les régimes communistes, les régimes de l'Est. J'imagine d'abord, c'est pas évident de produire un tel film, de le réaliser, et ensuite, c'est pas non plus évident, comment dire, de d'assumer un tel film derrière.
Mais quand on fait un film, on ne pense pas ce qui va se passer après. Hein. On espère que ça va marcher bien, etc. Mais ce qui est important pour moi, d'abord, d'être honnête, complètement honnête. Honnête et éthique avec l'histoire et les personnages qu'on fait, ne pas les manipuler, les faire, puisqu'il y a des vraies histoires, donc aussi près que possible de la vraie histoire. Mais c'est impossible parce qu'une vraie histoire ne se passe pas dans 2 mois, on fait un film qui dure 2 heures. Donc il faut être avec l'éthique des personnages et des situations. Ça, c'est le premier souci. Après, il va se passer ce qui va se passer. Ça peut marcher. Bon, après, c'est vrai que le film a déclenché aussi des débats. Et il faut les assumer complètement. Il faut les assumer et répondre, parce que c'est là la responsabilité. C'est-à-dire suivre le film, dire voilà, j'ai fait ceci, il est comme cela, je crois toujours, je le fais comme cela, pour ceci, pour cela.
Ouais, mais c'est aussi une époque où le cinéma avait une autre dimension publique qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 70, les gens, ils y allaient beaucoup au cinéma. Les films faisaient le grand nombre voyait L'Aveu. Aujourd'hui, L'Aveu serait pas vu par le grand nombre. Faut pas se voiler la face.
Et puis, il y avait peut-être plus de grands films politiques à l'époque. Mais pour préparer sûr. L'émission,
moi, j'ai retrouvé moi, il a ouvert une brèche aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il a aussi fait un film qui a été formateur pour la génération qui a suivi, la mienne. Moi, si j'ai fait Welcome, c'est grâce à Costa. J'aurais jamais fait Welcome si Costa avait pas fait Z, L'Aveu, tout ça.
Sauf qu'on est quand même pas tout à fait dans le même registre, il me semble. C'est-à-dire que Costa Gavras, vous étiez quand même dans des grands films politiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a aussi été une orientation que vous avez prise par la suite. Je pense notamment au couperet. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce sont plus les problématiques sociales qui dominent le cinéma, qui serait le cinéma engagé. Et peut-être moins le cinéma purement politique. C'est-à-dire, qui va, aller sur le terrain de l'idéologie. Peut-être parce que d'ailleurs, il y a moins d'idéologie aujourd'hui. Hein. C'est aussi
non, parce que le monde a changé. Les idéologies sont différentes, les régimes sont différents. Et moi, je ne peux pas détacher le social du politique. Parce que le politique et le social, c'est lié complètement. Donc, je ne vois pas la différence. Mais c'est vrai aussi que quand on fait l'aveu aux aides, etc., ça s'attaque directement au niveau plus élevé du pouvoir. Tandis que là, le pouvoir agit, positivement ou négativement, sur tout le monde, sur vous, moi et les gens les plus humbles. Voilà, ça c'est le cinéma s'occupe chaque fois, suit sa génération, suit son histoire du
clientour. En l'occurrence, le couperet, ça parlait du pouvoir du CAC 40. Et c'est vraiment dans notre époque.
C'est pour ça que quand on pose la question, le cinéma est-il utile aux grandes causes ? C'est-à-dire, l'utilité, vous la voyez avant tout comme une utilité qui consiste à refléter finalement ce que sont les préoccupations du moment, à être dans la dénonciation ou à avoir peut-être une utilité qui serait une utilité politique, c'est-à-dire de changer les choses. Quand vous produisez, par exemple, un film, un documentaire comme Homme de Yann Arthus-Bertrand, Marie Masse-Montel, il ne s'agit pas juste de montrer de belles images, il s'agit aussi d'avoir un acte qui est là aussi sans doute un acte assez militant.
Ah oui, c'était militant, surtout, enfin de notre part évidemment, mais bien sûr de la part de Yann Arthus-Bertrand, d'autant plus que. Alors ça, c'est absolument... mon associé et moi, on est très doués parce que c'est le film qui a été le plus vu au monde et on avait décidé dès le départ qu'il serait gratuit parce qu'il fallait que le plus de gens possible le voient. Voilà. Donc, en même temps, il y a une histoire marrante avec Home, j'y pensais tout à l'heure, c'est que... on essayait juste à la fin d'être un peu positif quand même, mais on montrait quand même des choses pas très rigolotes. Et quelqu'un m'a raconté qu'il avait montré ce film à ses enfants ados et qu'il leur disait, même à des enfants plus jeunes, il disait « si vous êtes pas sage, vous allez revoir Home
». Ah ben voilà, ça peut être aussi utile pour les parents, le cinéma. Je vois que ça vous fait beaucoup rire, Philippe Lioret.
C'est drôle, c'est cocasse.
Ça fait réagir aussi le cinéma, évidemment. Est-ce que ça aussi, c'est une des fonctions ? C'est-à-dire qu'il faut que ça puisse provoquer, sans aller jusqu'à l'interpellation des pouvoirs publics et l'idée de se dire que ça va changer quelque chose au niveau politique, mais est-ce qu'au moins, les films que vous avez faits, l'un et l'autre, Philippe Yoret et Costa Gavras, il y avait quand même cette idée de faire réagir le spectateur ? C'est-à-dire que
non,
peut-être
non,
de changer son regard sur quelque chose ? Non, jamais ? Pourtant, c'est
non,
le cas quand
moi.
Même à chaque fois.
Non, le cinéma, c'est un spectacle. Comme Molière, c'est un spectacle. Comme Sophocle ou Shakespeare, c'est un spectacle. On voit un spectacle pour passer deux heures, s'intéresser, rire, pleurer, avoir aussi de la colère, ou enfin tous ces bons sentiments humains. C'est ça qu'un spectacle doit provoquer. Et après, quand on sort dans la rue, avec les autres, on fait ce qu'on veut avec ces sentiments. On n'est pas là pour vous donner des leçons. On n'est pas là pour vous faire des discours politiques ou des discours académiques. On fait du spectacle. En tout cas, c'est comme ça que je les vois.
Mais j'imagine que vous avez
la liberté de faire ce qu'il veut.
J'imagine
mais nous faisons du spectacle.
J'imagine que vous avez régulièrement quand même certains de vos spectateurs qui vous écrivent, par exemple, quand ils
oui,
vous croisent, qu'ils vous disent,
bah
voilà,
rue,
tel
sûr.
Film a, par exemple, pu changer ma vision du monde, a pu me faire changer d'avis.
Ça, c'est bien, ça arrive, mais moi, ça, j'ai surtout pas pensé à changer la vue du monde quand j'ai fait un spectacle. J'ai fait un spectacle dans le sens que je vous le dis. Alors, le spectateur, après, il fait ce qu'il veut avec le spectacle qu'il a vu. Il fait ce qu'il veut avec Molière. Il rit, il parle à ses enfants, il passe la soirée à parler de ce qu'il a vu,
voilà,
il parle des acteurs qui ont bien joué, etc.
Et puis les sujets que tu traites, enfin, en l'occurrence, moi, c'est comme ça, c'est les sujets qui m'intéressent. Donc voilà, parce qu'on va passer 3 ans sur un film, autant que ça vous intéresse. Et évidemment, on se dit, si ça m'intéresse moi, ça va peut-être en intéresser d'autres.
Bien
Et
sûr,
puis c'est tout.
Bien sûr.
On veut divertir, on veut faire un spectacle, comme dit Costa, pas trop con si possible, et on y va. Voilà.
Alors, c'est marrant parce que c'est moi la productrice qui travaille à travers les réalisateurs, donc je leur impose rien, évidemment. Je suis presque la plus militante, parce que moi, je pense toujours à ce qu'avait dit Wim Wenders, on ne peut pas changer le monde, on peut changer les images du monde.
Mm-hmm.
Et moi, j'aurais pu être fonctionnaire, et je considérais que c'était...
Est-ce que vous avez fait l'ENA ?
Oui, enfin, c'est pas pour ça que je le dis. Mais je le dis, c'est un peu cérémonieux, je voulais servir mon pays. Et j'ai le sentiment de le servir plus en produisant des films un peu militants, mais parfois pas, hein, évidemment, j'impose absolument rien, comme ceux que vous avez cités, ou La domination masculine, ou La source des femmes, ou surtout, mais ça concerne Israël, Le procès de Vianam Salem. J'ai l'impression de servir à quelque chose et d'avoir eu raison de démissionner de l'ENA, voilà.
Servir son pays, est-ce que c'est quelque chose qui vous est passé déjà par l'esprit Costa Gavras, en se disant, ben voilà, je suis un cinéaste qui sert aussi à quelque chose dans
non,
la vie de mon pays.
Non, c'est un poids trop lourd pour dire je sers à quelque chose, ou je veux raconter quelque chose, je veux vous changer la vie. Non, moi je vois le film comme quand on est avec un ami autour d'une table, il y a beaucoup de gens, il y a quelqu'un qui raconte des histoires. Je souhaite être celui-ci, qui raconte des histoires qui intéressent tout le monde. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Après, c'est que les gens font l'histoire, et ben ça, c'est leur responsabilité. Et je suis content quand ils aiment cette histoire, quand ils rient, ou quand après ils me disent « Ah, j'ai appris des choses avec ton histoire ». Mais ça s'arrête là, et je pense que ça s'arrête là. En tout cas, en ce qui me concerne moi, n'est-ce pas ? C'est comme ça que je vois les choses. Et pas autrement, je dirais jamais « Il faut faire un film pour ceci ou pour cela », ni à moi, ni aux autres.
Et est-ce qu'il y a quand même un film ou des films, restons sur peut-être un seul, qui aurait provoqué, pour le coup, chez vous, une forte réaction, ou en tout cas, voilà, l'idée de dire, bah, tiens, voilà, voilà ce qui me semble important aujourd'hui, ça change mon regard sur les choses. Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué, qui vous a peut-être d'ailleurs justement donné envie
sûrement,
de
j'étais marqué par beaucoup de films. J'ai vu énormément de films. Il y a un film probablement qui m'a marqué profondément. Le premier que j'ai vu qui s'appelait Le Rapace à la Cinémathèque française, ou Tony à la Cinémathèque française, qui m'ont touché profondément. Parce que venais d'un pays où on ne voyait pas ces films-là. Donc tout d'un coup, j'ai découvert qu'au cinéma, on pouvait faire autre chose que des films légers ou des comédies ou des films d'action. Et ça m'a touché profondément. Je pense que ça aussi m'a guidé pour faire un certain type de cinéma. C'est lui que j'aime parce que c'est lui qui m'intéresse.
Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Marie Massepompei, Philippe Yoret et Costa Gavras. On rappelle alors le tout dernier film que vous avez produit, Marie Massepompei, qui est en salle depuis quelques jours, c'est...
La fête est finie, sur deux jeunes filles qui essayent de sortir de la drogue.
Philippe Yoret, vous êtes en cours d'écriture, c'est ça, pour le prochain ?
Oui,
qui sortira,
qui sortira quand il sera écrit et qu'on l'aura tourné.
Costa Gavras, président de la Cinémathèque, Cinémathèque avec un tas de rétrospectives régulièrement tout au long de l'année et peut-être encore un projet de long métrage.
Non, Cinémathèque ne passe pas à mes films.
Je parlais d'un nouveau, moi.
Oui, il passe beaucoup de films à Cinémathèque. On passe plus de 1200 films par an et il y a des très beaux films, des très belles rétrospectives comme il y en a à ce moment.
Merci à tous les trois, merci également à toute l'équipe du Grand Isolde Sicard, Antoine Dulster, Marine Beccarilli, Antoine Tricot et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Antoine Pitiloni. Arnaud Laporte, la dispute,
présent.
C'est dans 3 minutes.
Absolument, on va parler de théâtre ce soir. Et dans Du Grain à Moudre demain, Hervé Gardette.
La laïcité est-elle une et indivisible ? Débat entre Laurent Bouvet et Jean Bobéro.
Ça promet. Merci à vous.